Variation.
Variation.
Poésie,
Mise en voix.
La poésie sauvage ou l'ivresse des mots. La poésie sauvage ou l'ivresse des mots.
De la poésie qu'on débouche.
Poésie qu'on débouche, du poétique qu'on éclabousse.
Du poétique qu'on éclabousse. Tous les troisièmes mardis du mois à 11h.
Et rediffusion le dimanche à 13h.
Où en est l'enseignement depuis la grève des lycéens et les promesses gouvernementales? FR3 Île-de-France est allé au lycée Henri Bergson à Lillion dans l'Yonne. Il subsiste toujours des problèmes, mais on se serre les coudes.
Voilà, je suis là parce que votre professeur de philo n'a toujours pas été remplacé. Donc c'est moi qui, en attendant, vais assurer les cours. Ok ? Bon, sinon, voilà, on va commencer. Qu'est-ce que vous étudiez, là, dernièrement ? Oui ?
Épicure et la luxure.
Épicure et la luxure. Bah, écoutez, pour la luxure, un simple bandage suffit. Hein, il n'y a pas besoin de... Voilà, d'autres questions ?
Si tu veux...
Voilà, donc inconscient et subconscient, hein. Donc je pense qu'avant tout, le problème, c'est une question de souplesse, hein. Donc maintenant, on fléchit bien. Inconscient et subconscient, et deux conscients et subconscients. Maintenant, on réfléchit, bien sûr. Et trois conscients et subconscients, hein. Tout dans les genoux. Question de... Ok ?
Catherine, une de nos amies, professeure d'anglais, nous avait dit un soir...
Les récréations, on dirait des truies qui hurlent.
L'expression était si adéquate que j'ai en un instant été envahie par le souvenir de ces cours de récréation.
De ce bruit si particulier, jamais entendu nulle part ailleurs, d'enfants
hurlant. Et l'atmosphère des veilles de vacances, cette espèce de sauvagerie qui s'emparait des gamines. Une fois de loin en loin, il arrivait que l'une craignît l'ennui de l'été, mais pas l'ensemble. Oh non, pas l'ensemble. Bonne ou mauvaise élève, nous attendions l'été avec une immense convoitise. La veille des vacances, des farandoles barbares se déroulaient, d'où je me tenais lâchement à distance.
Vive les vacances, à bas la pénitence, les cahiers au feu, la maîtresse au milieu, les cahiers au feu, la maîtresse au milieu.
Je n'osais pas chanter ça. Sans doute, terriblement lèche-cul, craignais-je de trahir l'institutrice que j'aimais, que tout me forçait à aimer. Il y avait quelque chose de bien plus sérieux dans ma réserve. J'ai toujours eu une implacable épouvante du feu. Or, je prenais la chansonnette au mot, très littéralement, et je ne pouvais quand même pas souhaiter à la maîtresse une mort si horrible. Dans la petite horde, toutes n'avaient pas la même conscience de ce qui se disait là, mais toutes n'étaient pas simplettes non plus, et je sentais bien que la farandole enragée exprimait une haine réelle.
J'avais très peur. Nous étions heureuses pourtant. Je me souviens de chacune de mes institutrices. Mademoiselle Aubèze,
Mademoiselle Lasserre,
Madame le maire,
Mademoiselle Boisdin.
De braves femmes, très compétentes de surcroît. C'était une bonne école que l'école Sophie Germain. Et la directrice, Mademoiselle Goffer, avait su créer un climat...
Détendu. La vie se déroulait sans grand drame. Les maîtresses, plus ou moins sévères, élevaient peu la voix. Parfois, l'une ou l'autre riait pendant les récréations. Ça nous faisait plaisir. Il y avait d'autres écoles non loin où les institutrices avaient l'air méchants ou vulgaires. Pas chez nous, on avait de la chance. Certes, elles étaient distantes, et cela me serrait le cœur, mais on pouvait toujours poser des questions sur ce qu'on n'avait pas compris, et elles répondaient sans s'énerver. Oui, de bonnes maîtresses.
Je n'ai pas de reproche à leur faire.
Elles m'ont bien aimée.
J'ai tout fait pour ça.
Et je le dis, le cœur fendu.
Les enfants n'aiment pas l'école.
Ceux qui disent l'aimer, comme je le faisais, vivent souvent dans un système de séduction dont ils ont bien plus de mal à se débarrasser que ceux dont on a brisé la révolte par la répression.
J'aimais l'école parce que ça faisait plaisir à maman. Et que partant, les institutrices puis les professeurs me savaient gré d'être attentives,
disciplinées,
obéissantes.
Me faire aimer d'elles, c'était surtout échapper à l'enfer d'humiliation où vivaient les mauvaises.
On disait les bonnes et les mauvaises. Toute une conception morale de la réussite scolaire.
Il me semblait que jamais je n'aurais pu supporter les constantes réprimandes, les cris, voire les claques, les mains sur la tête, les tours de cour, le coin, la convocation des parents. Maintenant, Marie, j'ai très peur de ma peur ancienne.
Quelle dignité pourrais-je attendre de moi si je me trouvais un jour en situation d'être ainsi humiliée ou punie et que je ne puisse pas supporter?
Si je rampais à 6 ou 12 ans, sans doute ramperais-je encore maintenant et demain.
À tous les niveaux, l'école encourage la lâcheté. Et ce n'est d'ailleurs la faute de personne. C'est la situation scolaire elle-même qui crée une mentalité d'enrégimenté. Prends par exemple mes bonnes maîtresses. Elles ne manquaient pas de nous dire qu'il fallait les interrompre chaque fois que nous perdions le fil, comme si ça avait été simple.
Lever le doigt pour faire remarquer à toute la classe qu'on est un peu dur de la comprenette, ça demande déjà du courage. Avouer qu'on est perdu, on peut le faire une fois, deux fois. 3, ça devient délicat, et 4, sérieusement embêtant. Pendant qu'on fait répéter, les élèves qui ont compris perdent leur temps. Si bien que c'est le tour classique. Seuls les bons élèves se permettent, ceux qui demeurent, qu'on le veuille ou non, à la limite de l'impolitesse. Tout le reste à l'avenant, on fait semblant de comprendre, on triche, on falsifie ses notes. Que tout ça est infect.
Ce dernier mot m'évoque autre chose. C'était au lycée. Je transpirais beaucoup.
Maladivement, disait-on.
C'était une sueur froide, aigre.
La sueur très particulière de la peur.
Après le lycée, je n'ai plus jamais connu cette sueur-là que dans des cas de panique extrême. Mais je ne savais pas, alors que si grande était mon angoisse. On avait décrété une fois pour toutes que j'étais trop timide à l'oral. Quelques adultes comprenaient, eux aussi, dans leur enfance, perdaient leurs moyens quand il fallait monter sur l'estrade. Ils s'en souvenaient. Mais qu'est-ce que leur compassion changeait pour moi? J'étais d'un tempérament nerveux, voilà tout. Lors des compositions, on me donnait du Valium. Je ne représentais pas le seul cas d'espèce et la pratique des tranquillisants, que je sache, n'est pas tombée en désuétude. Tant s'en faut.
L'enfant timide ou sensible est supplicié dans ce groupe de petits et de grands aussi énervés les uns que les autres. Mais craintifs ou pas, tous sont confrontés à des dizaines d'épreuves quotidiennes.
Monsieur, je peux faire pipi?
Attends la récréation. 5 minutes plus tard.
Monsieur, je tiens plus.
Ça t'apprendra. Presque toute la classe rit. Le maître, magnanime, prend un air sévère. Bon, tu sors, mais c'est la dernière fois. Et en rentrant, tu me récites la table de 7. Allez, dépêche-toi. L'instituteur n'a pas conscience que 5 ou 6 pères Dieu dans la classe le regardent avec une sorte d'horreur. Ils savent ce que c'est que l'envie de faire pipi, et ils comprennent, de la vessie à la tête, par tous les frissons qu'ils dépendent d'un maître, qu'ils sont comme des chiens à qui on fait apprendre la table de 7.
Ils sont avec un maître chien qui les dresse. La dignité humaine? Heureusement, ils ne connaissent pas ces mots-là, mais ils pénètrent profondément bien la cruauté qu'il y a dans l'air.
J'ai tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdue, où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau.
Nous sommes en 1940. À Tarbes, mes parents louent une assez grande et belle maison rue des Carmes. La vie s'organise assez vite. Lycée Théophile Gautier pour Jean, école communale pour moi. Les prouesses scolaires ne sont pas pour moi. Je collectionne les observations du genre très indisciplinée, trop rieuse, meneuse, frondeuse, désobéissante. Faire rire et chanter, organiser des spectacles, c'est tout ce qui m'intéresse. Mes parents et la tante Jeanne laissent entendre, en levant les yeux au ciel ou par des haussements d'épaules désolés, que vraiment, enfin, ma pauvre enfant. Pour une fille, c'est un peu moins grave de ne pas être intelligente et cultivée, mais quand même, ma pauvre enfant. Je dois reconnaître que ce n'était pas mes carnets trimestriels qui pouvaient les convaincre du contraire. Nulle que j'étais en toute matière, excepté bien sûr le chant et la récitation. Ton frère, lui, sera docteur. Tant mieux, bien fait, tant mieux, bien fait. La tante Jeanne était veuve de l'oncle Camille, qui avait été médecin, et avec qui elle avait longtemps séjourné en Afrique. Elle parlait toujours des rentes que l'oncle lui avait laissées en lui faisant promettre de s'occuper de notre éducation, ce dont elle s'acquitta à merveille, pour ce qui concerne mon frère Jean, parce que c'est un garçon. Il n'avait alors que 11 ans. On s'évertua à m'expliquer qu'il n'y avait rien là que de normal, et que j'aurais dû comprendre. De fait, j'ai très bien compris. N'empêche, cette préférence qu'elle affichait en toute occasion, me reléguant comme une chose inintéressante et dépourvue de qualité, je l'ai ressentie comme une grande injustice, qui, à l'époque, m'a souvent fait apparaître mon frère comme peu compréhensif ou insupportable, alors que c'est aujourd'hui un homme que j'admire et je respecte, et qui me touche profondément. Je me sentais cancre face à ce frère, premier en tout, premier partout. Il n'empêche que le soir, au lieu d'apprendre mes départements et mon histoire de France, j'organisais mes premiers spectacles dans la grande buanderie avec de vieux fouillis de vêtements dont je déguisais mes voisins de la cour.
Fais attention, tu vas tomber. Ne mets pas ça à la bouche, c'est sale. Ne marche pas dans les flaques d'eau. Ne te salis pas, tu es tout propre. Ne le touche pas, c'est sale. Ne le touche pas, il va tomber. Ne le touche pas ou je t'attache les mains. Ne mets pas les doigts dans ton nez. Lave-toi les mains avant de manger. Ne mange pas avec les doigts. Ne cours pas si vite, tu vas tomber. C'est bien fait, le bon Dieu t'a puni. Tu es plus grand maintenant, tu devrais comprendre. Si tu n'es pas sage, maman va tomber malade. Si tu désobéis, je le dis à papa. Crie moins fort, ton père est fatigué. Ne pleure pas, maman dort. Tu dois toujours dire la vérité. Tu me fais beaucoup de peine. Tu me causes énormément de chagrin. Va au lit maintenant, c'est l'heure. Dis bonjour, merci à la dame. Embrasse ta grand-maman, ton grand-papa. Tu aimes ton papa, ta maman. Fais plaisir à papa, fais plaisir à maman. Tu aimes ta maman, dis que tu l'aimes. Tu aimes le petit Jésus. Fais Jésus, fais Jésus, fais Jésus, fais Jésus. Tu te comportes comme un bébé? Le monsieur va te gronder, qu'est-ce qu'il va dire le monsieur? Ne joue pas au ballon, c'est interdit. Ne fais pas pipi n'importe où, remonte ton pantalon, on te voit tout. Tu vois, quand tu veux, tu peux. Tu regrettes, dès que tu regrettes. Ne pleure pas, c'est bon pour les filles, c'est les fous qui pleurent. C'est pas pour toi, c'est un jeu de garçon, tu te comportes comme un garçon manqué. Tu dois toujours obéir aux grandes personnes. Si tu fais la méchante, je te téléphone à la police. Si tu n'es pas sage, je te mets à la cave. Fais ta prière, tu as fait ta prière, fais ta prière, tu as fait ta prière, fais ta prière, tu as fait ta prière. Tu dois toujours respecter tes parents, tu ne dois pas répondre à tes supérieurs. Les jeunes doivent obéissance aux vieux, tu dois prendre tes responsabilités. La paresse est la mère de tous les vices, il faut savoir réfréner ses désirs. Un homme doit dominer ses instincts, une fille doit sauvegarder son honneur. On n'est toujours qu'unis par où on a joui. C'est pour ton bien que je te dis ça après tout ce qu'on a fait pour toi. C'est un péché, c'est à l'index, c'est défendu, c'est décolleté, c'est pas propre, c'est pas sérieux. Tu me fais mourir, tu me rends malade, tu me fatigues, tu me fais trembler, tu me fais pleurer. Qu'est-ce que les voisins doivent penser? Qu'est-ce que la famille va croire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Parle moins fort, ne dis jamais ça, parle comme il faut, tu n'arriveras jamais à rien comme ça, tu as de mauvaises fréquentations. Ne fais pas ce que tu aimes, aime ce que tu fais. Tu ne dois pas désirer ce que tu ne peux obtenir. Le paradis n'est pas sur cette terre. Contente-toi de ce que tu as.
Daphna se radicalisa le matin où elle eut l'idée funeste de pénétrer dans l'école de mes enfants pour voir comment l'institution publique les traitait. La seule vue de son peuple parqué docilement dans une cour, cadenassé derrière de hauts murs, la remua jusqu'au tréfonds.
« Vous laissez bien la porte ouverte ?»
demanda-t-elle inquiète au paisible directeur en rajustant son costume de Davy Crockett.
« Ah non, madame, et la sécurité, mais qu'en faites-vous »«
Pourquoi vous pensez qu'il y a du danger partout ? Y a pas de loup ?»«
Oh, je n'en suis pas si sûr, surtout en ce moment, avec ce qu'on lit dans la presse. »«
Monsieur, je m'obstacle. Vous n'enfermerez pas les enfants à clé ?»
répondit Daphna avec fermeté. Monsieur Blanc, qui accompagnait Charlotte ce jour-là, intervint pour la tempérer. C'est lui qui me raconta la suite des événements, encore soufflé par les réactions insolites de la belle Daphna.
« Mademoiselle, objecta Monsieur Blanc, il ne s'agit pas de boucler nos chères têtes blondes, mais de les protéger. »«
Je me demande ce qu'en pensent les enfants, »
reprit Daphna en sortant son calepin d'enquête et un stylo.
« Ont-ils approuvé le règlement ? Choisissent-ils ce qu'on leur enseigne ici ? Répondez, je suis du de photomatch. »
« Madame, mais s'il fallait les consulter sans arrêt, » soupira le directeur en levant les yeux au ciel, « ce sont des enfants. »«
Vous voulez dire des sous-personnes ? Des moutards ? Des mioches inférieurs et ignorants ? C'est bien votre opinion ? Mais leur avez-vous seulement confié des rôles d'utilitarien ? Des missions indispensables à tous ? »
Monsieur Blanc tenta de répondre aux interrogations qui tourmentaient Daphna. Plus elle prenait conscience du statut discriminatoire dont étaient victimes ses frères et sœurs, plus cette ségrégation pleine de bons sentiments l'ébranlait. Daphna poursuivit son enquête la gorge serrée. En jugeant hypocrite de camoufler le colonialisme adulte derrière des attitudes protectrices qui puaient la condescendance. Mais pourquoi cet apartheid infantilisant, ce phylexora éducatif qui ruinait l'esprit de responsabilité innée des enfants ?
Qui donc avait jugé bénéfique d'interner les gamins à longueur de journée, de les contraindre à rester sur des chaises, dans des lieux coupés du monde extérieur? Des casernes où avaient cours des épreuves et des punitions qui n'avaient guère de pertinence sociale, entendaient aucune validité en dehors de l'institution. Quel candidat à un poste d'évêque ou d'ingénieur en biotechno doit être capable de réciter le corbeau et le renard en y mettant le ton? Avec une scélérate bonne conscience, les adultes avaient créé un faux monde censé préparer à la véritable société, un univers où l'on se gardait bien de découvrir les rôles réels que chacun devrait jouer par la suite. En classe, apprit-elle, la plupart des maîtres refusaient d'aborder les questions qui préoccupaient énormément les petits. Comment se fabriquent les bébés, les cabanes dans les arbres ou les cloches en chocolat, les mystères des zézettes et des zizi qui donnent tant de satisfaction, l'art d'apprivoiser les filles, de dresser ses parents, de les consoler en cas de divorce ou de licenciement, de séparer de son doudou, etc. Non, aucun apprentissage n'était en rapport avec des demandes qui eussent été élaborées par les enfants et qui auraient donc eu du sens pour eux. Au fond, personne ne leur faisait réellement confiance, ni ne songeait même à respecter pour de vrai leur choix. On ne leur parlait que d'en haut. Daphna restait sidérée par le perfectionnement de cet appareil déresponsabilisant maquillé en œuvre bienfaisante. Pourquoi infligeait-on à des gamins innocents cette monotonie rituelle qui décourage l'initiative et le dynamisme enfantin? Quel bourreau sadique avait décidé de contraindre leur corps à de longs moments d'immobilité? Daphna haïssait les chaises. Quel détraqué avait établi des règles de fonctionnement qui limitaient l'échange entre le maître et les élèves à un jeu rigide de questions-réponses dans le cadre d'un programme imposé? Pourquoi laissait-on les minots seuls et démunis face à leurs interrogations existentielles?
Mais, protesta Monsieur Blanc, on les valorise également! Quand un gamin a une bonne note, il est ravi!
On les note!
Releva Daphna scandalisée.
Mais c'est humiliant! Et eux, est-ce qu'ils notent leur maître ou leur maîtresse?
Écoutez, tout ça est fait pour leur bien, marmonna le directeur.
Pour leur bien?
Et reprit-elle avec ironie. Nous pratiquons une pédagogie de l'éveil. Exaspérée par le fourbi pédagogiquement correct, Daphna répliqua.
Personnellement, je connais plus de majeurs à réveiller que de mineurs.
On note les enfants, mais selon des critères adaptés, différents des nôtres, précisa l'enseignant.
Parce que vous avez des critères pour enfants et d'autres pour adultes. En plus, on se moque d'eux, en les considérant comme des inférieurs, des minus, des pitres.
S'écria-t-elle furieuse.
Comment voulez-vous qu'ils aient confiance en leurs pommes? Ils sentent bien que vous les prenez pour de la crotterie. Que ce qu'ils font a moins de valeur à vos yeux que ce que fabricotent les grandes personnes.
Écoutez, s'insurgea le directeur, comment faut-il vous le dire? Ce ne sont que des enfants.
Vous dites enfants, comme si c'était un vilain défaut ou un gros mot. Vous savez quoi? Vous êtes laid du cœur et de la figure. Même immobile, on dirait que vous grimacez.
Hors d'elle, Daphna escalada la galerie. Mais qu'est-ce que vous faites? S'exclama le directeur.
Vous me faites pitié, moi je fais mon devoir.
Elle se tourna vers la foule d'élèves dressés qui, au son de la cloche, avaient formé des rangs impeccables. Complices de leur servitude, ils obéissaient d'eux-mêmes. Un instant, Daphna resta sans voix devant le spectacle de ces gamins déjà adultisés, exempts de tout débordement affectif. Puis, frissonnante de révolte, elle horta à peu près ce discours de passionnariat.
« Pousse, camarade! Vous êtes 200 et il n'y a que 12 culottés dans l'école pour vous garder. Rebellez-vous! Brûlez les chaises! Refusez d'obéir à vos maîtres qui ne sont que des commandeurs! Arrêtez de les copier et écrivez en rébus! Sûr que les enfants sont meilleurs que les grands, même qu'en CP, vous apprenez à lire en un trimestre, alors que votre maîtresse, elle, qu'a-t-elle appris par cœur en 3 mois? Que dalle! Les grandes personnes profitent de votre petite taille, alors que c'est pas de votre faute si vous avez 7 ans! C'est que des profiteurs, des culottés! De quel droit vous oblige-t-il à pas pleurer quand vous êtes découragé? À dire « Merci madame !» alors que vous avez envie de tirer la langue? Qui leur a donné la permission de vous mettre au dodo lorsque vous n'avez pas sommeil? De vous empêcher de turbuler? De sauter dans les flaques d'eau? Alors que c'est jouissif de zoiver, hein? Eh bien, je vous le dis, croyez-moi, il y a sur cette terre un pays où les enfants sont libres. Oui, délivrés de parents. Sur mon île, on a eu le courage d'emprisonner le dernier adulte. Et puis on l'a tué.
Ouais! Va
femme.
Avec la tête, il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout. On le questionne. Et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur.
Je suis souvent en retard. 5-10 minutes. Ma mère oublie de me réveiller. Le déjeuner n'est pas prêt. J'ai une chaussette trouée qu'il faut raccommoder. Un bouton à recoudre sur moi. Oh, tu peux pas partir comme ça. Mon père file sur le vélo. Mais ça y est, la classe est rentrée. Je frappe. Je vais au bureau de la maîtresse en faisant un plongeon. Denise Lesure, sortez! Je ressors, sans inquiétude. Retour, replongeon. Elle devient sifflante. « Ressortez ! On n'entre pas ainsi !» Ressortie, cette fois je ne fais plus de plongeon. Les filles rient. Je ne sais plus combien de fois elle m'a fait entrer et sortir. Et je passais devant elle sans rien comprendre. À la fin, elle s'est levée de sa chaise en serrant la bouche. Elle a dit « Ce n'est pas un moulin ici !» On s'excuse auprès de la personne la plus importante quand on est en retard. Vous l'êtes toujours, d'ailleurs. La classe pouffe. J'étouffe de colère. Tout ce cirque pour ça, pour rien, et en plus, j'en savais rien. Je savais pas, mademoiselle. Vous devriez le savoir. Et comment? Personne, jamais ne me l'a dit chez moi. On entre quand on en a envie. Personne n'est jamais en retard au café. C'est sûrement un moulin chez moi. Quelque chose me serre le cœur. Je n'y comprends rien. L'école, le jeu léger, irréel se complique. Les pupitres durcissent. Le poil sent fort la suie. Tout devient présent, bordé d'un trait épais. Elle s'est rassise. Elle pointe son doigt sur moi en souriant. « Ma petite, vous êtes une orgueilleuse. Vous ne vouliez pas, non, vous ne vouliez pas me dire bonjour. » Elle devient folle. Je ne peux rien lui dire. Elle parle tout à côté. Elle invente. Après, je lui disais à chaque fois pourquoi j'étais en retard. Le bouton, le déjeuner pas fait, une livraison matinale et je la saluais. Elle soufflait sans rien dire. Un jour, elle éclate. « Comment ? Votre mère fait sa chambre à midi ? Tous les jours ? Ça dépend des fois, des fois l'après-midi. » Des fois, elle la fait pas. Elle a pas le temps. Je cherche à me rappeler. Vous moquez-vous du monde? Vous croyez que ça m'intéresse, vos histoires? C'est la fille d'à côté qui me renseigne. Lélie, ça se fait, oh là là, tous les jours. Tu dois habiter une drôle de maison. Les autres filles sont retournées, elles chuchotent entre elles, les rires, le bonheur, et tout à coup ça tourne comme du vieux lait. Je me vois et je ne ressemble pas aux autres. Je ne veux pas le croire. Pourquoi je ne serais pas comme elles? Une pierre dure dans l'estomac? Les larmes piquent. Ce n'est plus comme avant. Ça, l'humiliation. À l'école, je l'ai apprise, je l'ai sentie. Il y en a qui sont sûrement passés à côté, que je ne sentais pas, je ne faisais pas attention. J'avais bien vu aussitôt que ça ne ressemblait pas à chez moi, que la maîtresse ne parlait pas comme mes parents, mais je restais naturelle. Au début, je mélangeais tout. Ce n'est pas un moulin. Mademoiselle Lesure, vous ne savez donc pas que... Apprenez que... Vous saurez que... C'est pourtant la maîtresse qui avait tort. Je le sentais, toujours à côté. D'ailleurs, quand elle disait « Votre papa, votre maman vous permettent-ils d'entrer sans frapper ?» En détachant les mots, j'avais l'impression qu'elle parlait de gens tout à fait inconnus. Un décalque qui flottait derrière moi, à qui elle parlait. Ils auraient dû ressembler au décalque, mes parents. Ça aurait été facile. Tout le problème, c'est qu'ils en étaient loin. Elle était forcément toujours à côté, la maîtresse.
Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? J'ai appris qu'il ne faut mentir jamais, qu'il y a des bons et des mauvais, que je suis libre comme tout le monde, même si le maître parfois me gronde. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Que les gendarmes sont mes amis et tous les juges très gentils, que les criminels sont punis pourtant, même si on se trompe de temps en temps. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Le gouvernement doit être fort, a toujours raison et jamais tort. Nos chefs sont tous très forts en thème et en élit toujours les mêmes. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? J'ai appris que la guerre n'est pas si mal, qu'il y en a des grandes et des spéciales, qu'on se bat souvent pour son pays, et peut-être j'aurai ma chance aussi. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école.
On a tant de mal à se remettre dans la peau de l'enfant qui dépend complètement des grands. Attendre. Attendre le bon plaisir du prince. Quoi qu'on veuille se procurer, il faut demander, toujours réclamer, faire des minauderies, promettre d'être sage, de ne pas abuser, et toujours s'exposer au refus. Quémander vous rend avide. Pas étonnant qu'il y ait des timbrés pour tirer sur celui qui touche à leur voiture. La mendicité obligée de l'enfance est aussi à l'origine de la peur. C'est l'insécurité absolue, la pauvreté absolue et la menace odieuse contenue dans toute dépendance. L'enfant ne sait rien de demain. Quoi de plus angoissant que de s'entendre répondre « Tu verras bien !» J'ai vu des adultes faire des crises de nerfs pour moins que ça, car il est vrai qu'on a le droit le plus entier de savoir. L'enfant vit en famille dans une menace vague qu'il peut d'autant moins circoncire qu'elle se noie dans l'affection. À l'école, les sources les plus profondes de l'insécurité permanente, la peur de faire de la peine à ses parents, celle d'être séparé de ses amis, celle bien enfouie de jouer là tout son avenir, celle de devoir se reconnaître stupide, etc., ne se prête pas aux conversations entre mômes. Par contre, on évoque sans fin la partie visible de l'iceberg, la punition. C'est un sujet intéressable. Dans notre société, qui punit-on? Les malfaiteurs et les enfants, uniquement, et puis tout le monde trouve ça naturel. La trouille de l'enfant scolarisé, c'est qu'il se sait dans la nasse. Il entre dans un lieu disciplinaire. S'il a 10 000 formes possibles, un lieu disciplinaire est essentiellement un lieu de surveillance, donc de punition. Si un jour l'école t'intéresse, tu trouveras dans le livre déjà signalé de Michel Foucault sur la prison, Surveiller et punir, des réflexions parfaitement appropriées à l'institution scolaire sur le principe de visibilité obligatoire. C'est le fait d'être vu sans cesse, de pouvoir toujours être vu, qui maintient dans son assujettissement l'individu disciplinaire. Le pouvoir peut braquer le projecteur sur n'importe quel enfant, à n'importe quel moment. Que faites-vous? Comment être assez détendu pour dire tranquillement « ça ne vous regarde pas » ce qui est forcément la seule réponse correcte si l'on veut garder son intégrité dans le réseau où sont intriquées toutes les surveillances qui s'exercent sur vous. Les surveillants eux-mêmes sont surveillés, les professeurs aussi, le directeur aussi. Il faut surveiller, il faut se surveiller les uns les autres, il faut se surveiller soi-même. Tout le monde vit dans l'appréhension de la punition et se défoule sur l'élève. Je n'évoquerai même pas les fessées déculottées qui sont loin d'avoir disparu, mais toute punition se veut humiliante, et n'importe quel adulte, comme tout enfant, mourrait de honte si on le fessait cul nu devant 30 collègues. N'importe quel adulte rougirait ou pâlirait si on lui faisait remarquer devant ses voisins qu'il ne sait pas grand-chose, et n'importe quel adulte aurait envie de tuer si on lui ordonnait de lire à voix haute, en public, la lettre qu'il a écrite à son amante ou son amant pendant ses heures de bureau. Si quelqu'un ose me soutenir que cela ne se fait plus, je le ridiculiserai en lui donnant toutes les preuves qu'il voudra. Encore me gardais-je absolument de dénoncer des cas de brutalité ou de cruauté mentale qui me semblent cas d'exception. Je ne parle que de l'école quotidienne, celle des 20 dernières années de ce millénaire, l'école d'aujourd'hui. Et je t'aurais envoyé dans cette galère ? Je ne t'ai jamais puni. Ce qui ne m'a pas empêché de piquer quelques colères, et j'éprouverais sans doute aussi de la colère si je me faisais agresser par un quidam. Mais te punir ? Punir un agresseur ? Ou charger la justice de faire ce sale boulot ? Mais quelle absurdité ! Au nom de quoi ? Mais surtout, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Pour intimider ? C'est-à-dire au sens littéral pour faire peur ? Mais comment ne vit-on pas alors dans la crainte de récolter la violence qu'on aurait semée ? Toute punition n'est qu'une vengeance, une très basse vengeance. Dans certains foyers, à l'école, au tribunal, on ne se préoccupe pas des conséquences de la haine qu'on accumule. On punit pour montrer qui est le plus fort. La loi, c'est la force. Rompez. Strictement rien de rationnel là-dedans. Et comme ce prof de philo, viré de l'éducation nationale dont je t'ai parlé, qu'on avait accusé de critiquer toute punition, je dirais qu'en effet, elle est inexcusable, quels qu'en soient les motifs. Et il y a aussi les adultes qui ne punissent pas, mais qui menacent sans cesse. « Encore un peu, tu vas voir !» Tu vas voir quoi ? On m'aurait fait ce coup-là que certainement j'aurais voulu mesurer la distance de la menace à son exécution. La menace est toujours en soi une forme de répression. Elle perturbe et elle énerve. En classe, la moindre interrogation est chargée d'un tas de sous-entendus. « Vous avez fait seul cette dissertation ?» Peut-être l'expression d'une admiration, mais plus vraisemblablement d'une suspicion, d'un sarcasme. « Dites-moi, mon petit, vous me semblez bien ailleurs en ce moment. » Est-ce que le ton était amical ou acerbe ? Et le gamin vint s'interroger là-dessus la journée entière. Tout compte dans l'évaluation que ces gens qui ne vous connaissent pas font de vous. À l'école, le danger est présent en tout adulte. Du concierge au directeur, tous sont payés pour faire les flics. Même les parents le moins gendarmes étant brigadés pour des histoires de contrôle et de signature. Si un régime autoritaire décrétait que désormais nos activités devaient être déposées par écrit et contresignées par le mari ou la voisine ou la préfecture, quelques-uns hurleraient au fascisme. Mais que les enfants doivent montrer à leurs parents leur carnet de notes ne gêne personne. Si tu décidais d'aller au lycée, jamais, au grand jamais, je n'accepterais d'imposer ma signature en bas d'un rapport de cette espèce, un mouchard en réalité. Tu pourrais toujours me le montrer si tu voulais, on se demande bien pourquoi. Me mettrait-on à l'amende ? Je repense à la tête catastrophée de Blanche. « Mais c'est incroyable, on a de gros problèmes avec Loïc. Son professeur s'est rendu compte qu'il avait falsifié ma signature, tu te rends compte ? Jamais je ne l'ai grondé pour une mauvaise note, jamais, mais qu'est-ce qui a pu lui prendre ? Et depuis qu'il se s'est découvert, il reste enfermé dans sa chambre, ça fait 3 jours, et rien à faire pour le faire sortir. » J'aime bien Blanche. Elle était dans tous ses états et je ne savais vraiment pas comment la consoler. Je n'allais quand même pas lui dire qu'elle s'en sortait plutôt bien et que l'immense majorité des suicides d'enfants étaient dus très précisément à la peur d'avouer une mauvaise note ou à la honte de voir reconnue une fausse signature. Des psychologues, toujours de service quand il s'agit de justifier les normes et d'expliquer l'inexplicable, t'affirment sans sourciller que si l'on ne punit pas l'enfant, il se punira cruellement lui-même, se blessera, cassera son jouet préféré, s'accusera de fautes qu'il n'a pas commises pour faire bonne mesure, et que l'éducateur doit punir pour soulager la conscience du bambin. Bien sûr qu'il y a des enfants fêlés, mais pour se punir soi-même, il faut être déjà bien rongé par la peur, craindre pire, encore et toujours pire. Tu ne crois pas ?
Témoignage d'une collégienne, avril 2002. Exemple du collège de Poussan, dans l'Hérault, avec dans le rôle des prisonniers, les élèves. Dans le rôle des matons, les pions. Le directeur est joué par le principal. La salle des matons se situe à la vie scolaire. La cour de promenade est nommée cour de récréation. Pour l'instant, il est encore possible de s'en évader et la principale sanction est l'exclusion et non le mitard. Le collège est entouré de grilles. Il est tout de même possible de les franchir. Les entrées et sorties sont surveillées systématiquement par des caméras de vidéosurveillance et 2 pions, à chaque sortie, vérifient les carnets de correspondance. Il est bien sûr interdit de rester devant le collège et si au bout d'un quart d'heure personne n'est venu chercher les élèves, ils doivent se rendre à l'intérieur et aller à la vie scolaire, centre de surveillance de l'établissement. Les fouilles sont pratiquées assez couramment. Le principal et le principal adjoint pénètrent régulièrement en plein cours, sans explication, et exigent de fouiller les cartables et les trousses. Le règlement spécifie que tous les casiers peuvent être fouillés à tout moment par l'administration. Au collège de La Salle, à Montpellier, une journée de fouille a eu lieu afin de vérifier dans tous les agendas s'il n'y avait pas de photos érotiques, voire simplement dénudées, qui sont considérées comme une incitation à la pornographie et répréhensibles d'une exclusion. Au self-service, il est interdit de circuler. Une fois assis, plus le droit de se lever. Une fois dans la cour, entre midi et 2 heures, les pions effectuent des rondes. Ils circulent constamment pour surveiller les faits et gestes de tous les élèves. Depuis des années, les élèves réclament l'installation de casiers. Ils seront bientôt installés. Mais le nombre prévu étant insuffisant, un système de liste d'attente va être mis en place. L'élève citoyen est bien sûr à l'ordre du jour. La délation est favorisée. Et si les casiers sont détériorés, tag, vol, et que le coupable n'est pas trouvé, cela entraîne systématiquement la perte du casier et le retour sur la liste d'attente. Si le coupable est trouvé, il subit une double peine. D'une part, il doit réparer, repeindre, et il est définitivement privé de casier. Les gendarmes peuvent entrer dans l'établissement pour cueillir un jeune délinquant en possession d'une petite boulette de shit. Les méthodes de contrôle et de surveillance sont de type policier. Lors d'un incident dans la cour de récréation où un groupe d'élèves en menace un autre, les pions prennent les choses en main et incitent à la délation, en mettant en avant le droit de se défendre face aux mauvais éléments et de répondre aux violences. Les fauteurs de troubles doivent être punis. Pour cela, la victime est sommée, devant un registre contenant les photos de tous les collégiens de l'année, de reconnaître le coupable pour qu'il soit sanctionné.
Ce qui abrutit le peuple, ce n'est pas le défaut d'instruction, mais la croyance en l'infériorité de son intelligence. Jacques Rancière.
Être acteur de sa formation et voir dans le lycée autre chose qu'une fabrique à bacheliers. Tel est l'esprit du LAP, le lycée autogéré de Paris. Notre première rencontre avec le LAP est fixée un mardi après-midi, jour de l'Assemblée Générale. Nous sommes convoqués pour présenter notre demande de reportage devant l'ensemble du lycée. En attendant notre grand oral, nous poussons la porte de la cafette. Derrière le comptoir, des jeunes servent des repas et des cafés. Dans la salle, ceux qui ont fini de manger emportent leur assiette au lave-vaisselle, deux lycéens font du piano et une jeune fille circule entre les tables pour vendre des parts de brownie afin de financer un voyage de fin d'année. Flora, une prof de français, nous explique le déroulement de l'AG à venir. Comme pour chaque décision, notre venue sera votée par tous les membres du lycée, 250 élèves et 25 professeurs, sur le principe d'une personne égale une voix. Ici, ni proviseur, ni surveillant, ni cuisinier, ni personnel de ménage. Profs et lycéens assurent eux-mêmes toutes les tâches. Au LAP, il n'y a pas de sonnerie, pas de notes, et la présence des élèves n'est pas obligatoire, sauf le mardi après-midi. Cette demi-journée consacrée à la gestion et l'entretien débute par environ 2 heures de réunion des groupes de base. Aujourd'hui, les discussions portent notamment sur les mécanismes de prise de décision. Un débat récurrent au LAP, relancé cette fois par un vote serré au sujet de la venue d'une équipe de reportage de TF1. Le groupe s'interroge sur la possibilité de changer les règles de scrutin, se demande comment prendre en compte une minorité qui se sent oppressée par un vote et quel pourrait être le compromis entre majorité relative et consensus.
Sur la vingtaine de personnes dans la salle, la moitié prend une part active à la discussion. Certains parmi les plus anciens sont parfois blasés par des sujets 100 fois abordés. Quelques nouveaux sont encore trop timides pour prendre la parole, mais les débats vont bon train. Argumenter, écouter, décider, ces moments font partie intégrante de l'apprentissage au LAP. À l'issue du groupe de base, élèves et professeurs font le grand ménage hebdomadaire du lycée. En 30 minutes, tout est propre. Dans l'ensemble, il y a d'ailleurs peu de dégradation au LAP, peut-être parce qu'il en est de la responsabilité de chacun et chacune de maintenir le lycée en bon état.
L'autre temps fort de l'autogestion a lieu le jeudi matin, de 11h à 13h. C'est la RGG, Réunion Générale de Gestion. En parallèle se tiennent également les différentes commissions. La commission accueil discute des demandes reçues de visites d'étudiants, de journalistes ou de chercheurs. La commission cafétaria gère les commandes de la semaine. La commission informatique répare les ordinateurs, etc. Murs à bâtir, plâtre à refaire, fuite d'eau à réparer, presque tout est fait en interne. On s'efforce de travailler avec un petit budget, donc on fait pas mal de récupérations. Cela permet de garder un peu d'argent destiné à l'entretien pour financer une partie des projets et permettre aux élèves de voyager, explique Aomar. L'autogestion n'est pas la seule particularité du LAP. Le rapport à l'enseignement y est bien différent des lycées traditionnels. Le tutoiement entre tous est de rigueur, les tables sont en cercle et le prof n'est jamais juché sur une estrade mais navigue dans les mêmes espaces que les élèves. La présence en cours n'étant pas obligatoire, les élèves qui viennent le font de leur plein gré. Ils sont aussi libres de quitter le cours s'ils le souhaitent. En ce lundi pluvieux à 9h, le principe de libre fréquentation saute aux yeux. Le petit déjeuner offert tous les matins aux lève-tôt n'a pas motivé grand monde. Catherine entame son cours de philo avec seulement 5 élèves sur les 25 que compte la classe terminale. L'autogestion, ça ne se fonctionne pas en dessous de 6 degrés, plaisante un lycéen croisé dans un couloir. La salle se remplira peu à peu durant les 2 heures de cours.
Le programme est également un peu différent dans le lycée classique. Particulièrement en seconde, où il n'est pas contraint par les examens du bac. Les professeurs ont alors une grande marge de manœuvre pour proposer des enseignements plus attractifs que les cours classiques. Des heures de langage de société sont par exemple inscrites à l'emploi du temps des secondes. À travers l'étude des liens entre le langage et le pouvoir, des questionnements autour de l'origine des langues, etc. Ce cours permet de réconcilier quelques élèves avec l'apprentissage du français, ou au moins d'en motiver certains à fréquenter la classe plutôt que le baby-foot du hall d'entrée. Surtout, le lycée fait la part belle aux enseignements artistiques et sportifs. Pour tous, au moins 2 heures par jour sont consacrées aux ateliers. Photos, vidéos, radio, danse, théâtre, randonnée, etc. Les élèves choisissent un projet dans lequel ils s'impliqueront toute l'année et qui débouche généralement sur un ou plusieurs voyages. Beaucoup de lycéens arrivent au LAP parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise dans l'enseignement traditionnel. Ce lycée leur permet de reprendre contact avec la scolarité ou de continuer dans le général, alors qu'ils avaient été orientés dans le professionnel. Pour d'autres, le choix du LAP est politique. On trouve ici d'anciens collégiens qui avaient de bons résultats, mais cherchaient dans l'école autre chose qu'un simple enseignement scolaire visant à préparer le bac. Depuis peu, il y a également des filles et fils d'anciens lapiens. Parmi eux, certains intègrent le LAP contre l'avis de leurs parents qui n'ont pas obtenu leur bac et craignent qu'il en soit de même pour leurs enfants. Ce lycée présente en effet le plus faible taux de réussite à l'examen, avec 30% de bacheliers environ. Certains n'ont pas le projet bac, soit parce qu'ils n'en voient pas l'utilité, soit parce qu'ils ne lui reconnaissent pas de valeur. Je ne veux pas perdre mon temps à bachoter, et je préfère me concentrer sur des sujets qui m'intéressent plus, explique un jeune homme actuellement en terminale et qui envisage de se lancer dans le compagnonnage l'an prochain. D'autres se décident en cours de route, comme Milan, aujourd'hui en terminale et qui souhaite passer le bac pour intégrer une école dans le domaine du spectacle. En première année ici, j'étais beaucoup en salle de montage. Je n'allais pas en cours classique. Mais ce n'est pas un mal. L'important au LAP, c'est d'avoir un projet défini. Bac ou pas, le LAP apporte toujours quelque chose à ceux qui l'ont fréquenté. Il offre du temps pour réfléchir à son avenir et au sens que l'on veut donner à ce que l'on fait ou fera et permet de découvrir d'autres activités que le travail purement scolaire. Magda, actuellement en terminale littéraire et qui souhaite devenir avocate, a ainsi profité de sa première année au LAP pour finir un roman qui a été édité. « Je me suis posée pour le faire. Avant le LAP, je n'avais pas le temps », explique-t-elle. Son parcours scolaire est à l'image de celui de nombreux élèves du LAP. Au collège, je travaillais très bien, jusqu'à ce que je déménage. À l'issue de ma troisième, avec 8 de moyenne, j'ai été orientée en seconde professionnelle, option secrétariat. Elle passe ainsi une année difficile, dans une filière qu'elle n'a pas choisie, avant d'entendre parler du LAP. C'est un lycée, et en fait, je suis épanouie, contente de venir ici. C'est indescriptible. Il y a plein d'émotions, de rencontres.
Le LAP n'a qu'un seul autre équivalent en France, le lycée autogéré de Saint-Nazaire. Ces deux structures sont nées avec l'arrivée au pouvoir en 1981 du Parti Socialiste qui a autorisé l'ouverture de plusieurs établissements scolaires expérimentaux. Plusieurs fois menacés, ils sont pourtant toujours là.
Une forte mobilisation des élèves, anciens élèves et professeurs a notamment permis en 2011 de sauvegarder les 5 postes de professeurs menacés de suppression. Ceux qui sont passés entre leurs murs en louent très souvent les mérites, mais ces lycées restent des expériences isolées. Le discours général est très admiratif, mais ici on touche à la politique, et ça, ils ne veulent pas que ça essaime. La responsabilité collective, ça fait peur, estime Stéphanie, professeure d'histoire géo au LAP.
Ce qui nous paraît indiscutable, c'est que si nous voulons la libération des hommes, nous ne pouvons commencer par les aliéner ou les maintenir dans l'aliénation. La libération authentique, qui est l'humanisation en marche, n'est pas une chose qu'on peut déposer dans les hommes. C'est une praxis qui suppose l'action et la réflexion des hommes sur le monde pour le transformer. Dans ce sens, l'éducation libératrice, conscientisante, ne peut plus être l'acte de déposer ou de raconter ou de transférer ou de transmettre des connaissances et des valeurs chez les élèves, simples patients, mais un acte cognitif. L'antagonisme entre les deux conceptions, l'une bancaire, qui est au service de la domination, l'autre conscientisante, qui est au service de la libération, prend corps précisément ici. Alors que la première nécessairement perpétue la contradiction éducateur-élève, la seconde réalise son dépassement. Pour maintenir la contradiction, l'éducation bancaire nie le dialogue comme essence de l'éducation et se fait antidialogique. Au contraire, pour réaliser le dépassement, l'éducation conscientisante, lieu de cognition, affirme la nécessité du dialogue et se fait dialogique. Pour être gouvernable, il faut qu'il sache lire. Freire a raison de se méfier de tous les programmes contre l'illettrisme ou l'analphabétisme qui se contentent seulement d'aider les gens à lire. Ils risquent de former des individus qui savent lire les instructions. Un tel projet éducatif d'alphabétisation est plutôt un projet politique d'apprivoisement. L'éducation est toujours une action soit de domestication, soit d'émancipation. Face à ce qu'il appelle l'éducation bancaire ou alimentaire, Freire plaide pour une éducation dialogique et libératrice. La première se manifeste par l'insistance sur la transmission de savoir de l'enseignant à l'enseigné, par la passivité de l'apprenant et par l'aliénation personnelle et culturelle de l'apprenant qui est regardé comme une boîte vide à remplir, un objet dans lequel on dépose des savoirs. Selon les dictionnaires, la liberté s'oppose à l'esclavage et à la servitude en étant l'absence ou la suppression de toute contrainte considérée comme anormale, illégitime, immorale. Je suis libre non pas dans la mesure où je suis juridiquement autonome ou socialement indépendant, mais au fur et à mesure que je suis aimé. Il ne s'agit pas de sentimentalité, mais d'un acte de courage. L'acte d'amour consiste à se compromettre pour leur cause, la cause de leur libération. Un véritable programme d'alphabétisation, au contraire, accompagne la construction de la conscience critique, individuelle et collective, permettant de refuser d'accepter ce silence et ce pouvoir comme des données inaltérables. « On n'enseigne que ce que l'on est », disait Jaurès. « Nous avons appris à résister ». Ou tenter toujours de le faire, à l'humiliation, au conformisme, aux ségrégations. À désirer, à avoir le goût de la fraternité, à faire le choix de la solidarité. À vivre à la marge, sans pour autant que ce soit dans l'exclusion. N'est-ce pas ce qui nous permettra d'essayer de jouer le rôle de passeurs de frontières ? La colère, l'indignation, la dénonciation, le refus, la révolte, on fait de ces manques et difficultés une des racines de nos espérances et de nos démarches. Nous avons appris ce sur quoi nous pouvions nous appuyer et ce à quoi nous ne devions pas consentir. Ce que veulent les oppresseurs, c'est transformer la mentalité des opprimés et non la situation qui les opprime, pour que ceux-ci, mieux adaptés à cette situation, soient mieux dominés. L'approche de transformation sociale menée uniquement à partir de politiques publiques sociales et éducatives conçues et décidées depuis l'appareil d'État, même si elles sont votées par les chambres de représentants, est voué à l'échec. On ne décrète pas le changement structurel et la participation active. On les construit.
A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N. O, P, Q, R, S, T, U. V, W, X, Y. C'est dans le moyen la plus. Car moi je pourrais plus monter. Non.
Allez, allez, mettez-vous en rempart deux et montez les escaliers. Celui que j'entends parler, je lui arrache les yeux. Maintenant, écoutez-moi, celui qui me contredit, je lui coupe le zizi et je lui casse les doigts. Mets pas tes coudes sur la table, à quoi ça sert de fumer? Tu ferais mieux de travailler, y'a encore du boulot dans les étapes. Écoutez donc ce qu'on vous dit, n'allez pas traîner le soir. Fais pas ci, fais pas ça. Mais ça on t'a déjà dit. Laissez-moi lui faire comprendre que dans la vie faut pas voler, faut pas droguer ni bigoler. Sinon tu vas en prendre. Et si tu veux t'en sortir dans cette putain de société qui ne fait que prospérer, tu devras bien te conduire.
La vie est coupée en deux. Plutôt, il y a deux vies qui ne se mélangent pas. La vie à l'école, la vie dans la rue Sainte-Anne. Du coup, il y a deux mois qui ne se mélangent pas non plus. L'école, c'est l'endroit où la vie est comme dans les livres, comme au cinéma, comme sur les affiches. Les profs ont des cravates et des complets vestons, tous les jours, pas seulement pour se marier ou pour aller à l'enterrement. Ça leur va comme une peau. Ils ont des poches aux genoux et de la cendre de cigarette sur la cravate, et même, des fois, des taches de jaune d'œuf. Mais on dirait vraiment qu'ils sont nés avec ça, que ça a grandi en même temps qu'eux. Ils emploient le passé simple et disent « je ne crois pas » au lieu de « je crois pas » des Français en bleu de chauffe ou de « zrapa » des Rital en blouse de plâtrier. Ils fument des cigarettes toutes cousues dans des fumes-cigarettes. Ils ont un parapluie au bras pour quand il pleut et un par-dessus pour quand il gèle, avec un petit ruban rouge ou violet ou bleu à la boutonnière. Les élèves portent des culottes de golf, des culottes à chier dedans, ricane la rue Sainte-Anne, des pull-overs faits à la machine avec dessus des grands dessins compliqués pour bien montrer que c'est acheté avec des sous, pas tricoté à la maison par une mère pauvresse en berçant le petit dernier. Ils ont de la gomina sur les tifs, des serviettes en peau fine avec des fermoirs dorés ou même ils balancent à bout de bras leurs livres ficelés par une courroie. Ils écrivent au stylo plume, en or, bien que ce soit défendu. Ils ont du fric dans la poche. Beaucoup portent des lunettes et n'en ont même pas honte. Pff, les lunettes, ça fait dégénérer, moi, je trouve. C'est bien des enfants de bureaucrates. À l'école, on s'occupe de choses dont le nom n'a jamais résonné entre les murs noirs de la rue Sainte-Anne. Géométrie, algèbre, physique, chimie, lettres, éducation civique. En tournant le coin de chez Sentis, le libraire, pour enfiler la rue Sainte-Anne, on plonge brusquement dans un monde qui n'a rien à voir. Un monde régi par des mots qui n'existaient pas l'instant d'avant, de l'autre côté de la ligne.
Minestra, poulente, nonna, chantier.
Un monde d'odeurs puissantes et chaleureuses, de cris, de galopades, de caniveaux croupissants, de murmures paisibles dans les longs crépuscules bleus, de frénétiques chasses aux rats, de grand-mère aux fenêtres entre deux géraniums. Les mômes de l'école travaillent pour devenir quelque chose. Ils ont un avenir. Un avenir, ça dépend des examens, des concours, du travail, de la chance, du piston, de papa-maman. Les mômes de la rue Sainte-Anne ne se cassent pas la tête. Ils se laissent vivre jusqu'à leurs 14 ans.
puisque le diou de Stramelidi Issa de République oblige leurs parents à les nourrir, jusqu'à là, en s'arrachant le pain de la bouche. Et puis ils passent leur certif, pure formalité, à tous les coups le ratent. Ça vaut mieux. Si par hasard on le décroche, il irait se faire embaucher à la cartoucherie où il méprisera ses parents. Et se retrouve dès le lendemain de l'écrit, sans même attendre les résultats, entre les brancards d'un camion à bras, ses épaisses carrioles de maçons lourdes comme des tombereaux, la bricole en travers de la poitrine, en train de coltiner 2 ou 3 tonnes d'échafaudage, des sacs de ciment, de sable et de ferraille vers quelque lointain chantier. L'avenir, c'est pas un problème. Ils seront maçons. S'ils ont les doigts agiles et la tête bonne, ils seront peut-être menuisiers, ou couvreurs, plombiers zingueurs, ou peintres, ou peut-être mécaniciens dans un garage. C'est un métier d'avenir, mais difficile. L'aristocratie du travail manuel. Il y en a qui choisissent garçon boucher, c'est plaisant, mais ça mène à quoi? Si t'as pas les parents qui t'avancent les sous pour t'acheter la boutique, tu resteras deuxième couteau toute ta vie. Quand je suis à l'école, l'école primaire supérieure de Nogent-sur-Marne, section générale, j'oublie tout ce qui n'est pas l'école, même Roger. J'ai des copains d'école, avec qui je me marre bien, avec qui je me tabasse à l'occasion, mais qui disparaissent de ma vie dès que je suis sorti de là. On dirait que ces mecs de l'école n'existent pas en dehors de l'école. Jamais j'en rencontre un quand je fais le con avec les autres traîne-patins dans la rue de Nogent. Ou alors, c'est moi qui suis vraiment cloisonné étanche.
Vous êtes bien installé ?
Oui. C'est parti pour le décollage !
1, 2, 3, 4 !
Des textes.
Bibliographie.
Source.
La bibliographie de Variation. Insoumission à l'école obligatoire de Catherine Baker aux éditions Time Party.
Il était un piano noir, mémoire interrompue de Barbara.
Yvette Thérolaz qui interprète Fais attention.
Un extrait des Coloriers, un roman d'Alexandre Jardin.
Le poème de Jacques Prévert, Le Cancre.
Les armoires vides d'Annie Ernaux.
Dream All Right avec Qu'as-tu appris à l'école, mon fils?
De nouveau Catherine Baker, Insoumission à l'école obligatoire.
Le témoignage réel d'une collégienne, paru dans la brochure Même Passage.
Article tiré du dossier pour une école émancipatrice, paru dans le 3e numéro de L'Utopique.
Extrait et analyse de la pédagogie des opprimés, de Paolo Freire.
Les têtes raides avec Éduque Montluc.
Les ritales de Cavana.
Et pour finir, la voix de Christiane Rochefort.
Rendez-vous le mardi 20 février à 11h pour la deuxième partie de cette émission spéciale.
École, tome 2. Et rediffusion le dimanche 14 janvier sur Radio Saint-Ferréol.
À 18h.
À plus, dans le bus. De l'école.
Des textes.
Bibliographie.
Source.
La bibliographie de Variation.
Ce que je dis à propos de l'amour, c'est que l'amour dans l'autorité est faussé. Que l'amour dans l'autorité, ça n'existe pas. C'est une chose qui n'est pas vraie. Il faudrait vraiment dépouiller l'autorité pour voir l'amour. Hein? Tant qu'il y a l'autorité, on ne peut pas le voir, l'amour. Alors on ne sait pas s'il est là. Et il y a une confusion chez les adultes entre leur amour et le pouvoir qu'ils exercent. Quelquefois, ces deux choses vraiment n'en font qu'une. Et je connais des mères qui sont prises dans ce guépier. Alors bon, je sais qu'elles ont été prises dans ce guépier en tant que femmes. Hein? De même que des hommes ont été pris dans ce guépier en tant qu'hommes et en tant que pères. Je ne leur jette pas des pierres. C'est dans un respect de la personne que je vais... Essayons donc de parler aux enfants sur un ton normal, sur le même ton qu'on emploie pour parler à ses copains ou enfin aux gens qu'on connaît. Il n'y aurait pas de statut de mineur, par exemple. C'est une supposition, voyez-vous, par exemple. Il n'y aurait pas de statut de mineur. Moi, ça va. Ça va pour moi, ça. Pas de statut de mineur. J'aurais pas peur pour eux.
Variation.
Variation.
Poésie,
mise en voix.
La poésie sauvage ou l'ivresse des mots. La poésie sauvage ou l'ivresse des mots.
De la poésie qu'on débouche.
Poésie qu'on débouche. Du politique qu'on éclabousse.
Du politique qu'on éclabousse. Tous les 3e mardis du mois à 11h.
Et rediffusion le dimanche à 13h.